Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe reversebasketsession.com. J'en profite pour vous rappeler que le dernier numéro du MOOC Reverse spécial Chicago est disponible exclusivement sur Basket Session. Donc, allez sur le site, vous le trouverez sans aucun problème. Et puis là, on va forcément parler finale NBA, puisque le match 4 de la finale entre Phoenix et Milwaukee vient de se jouer. Et bah, pour décrypter un petit peu ce match et cette série, je suis rejoint par Antoine Pimel. Shai Mamou nous a fait faux bond cette semaine, on le retrouvera très rapidement, j'en doute pas. Antoine, comment ça va?
Ça va, impeccable et toi?
Eh bien, écoute, plutôt pas mal. Moi, personnellement, je continue quand même à me régaler avec cette finale NBA inédite et surprenante. Je trouve que le niveau de jeu et la qualité de jeu proposée par les deux équipes est vraiment agréable à suivre. Là, on est sur forcément la suite. Enfin, pour l'instant, c'est une série, deux séries. Phoenix a remporté les deux premiers matchs à domicile. Milwaukee a remporté les deux matchs suivants à domicile également. Voilà, forcément, si Milwaukee veut remporter cette finale, il faudra aller chercher un match à l'extérieur. On vous rappelle que le prochain match, notamment, sera à Phoenix dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour commencer, bah, je voudrais tout simplement avoir ton ressenti à toi, Antoine. La dernière fois qu'on s'est parlé, du moins dans le podcast, c'était justement à l'issue du match 2 remporté par Phoenix. Comment tu vois les choses depuis? Quel est ton sentiment après ces deux matchs à Milwaukee?
Bah, écoute, c'est marrant, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a eu deux séries, mais paradoxalement, la deuxième série, je pense qu'elle a commencé au match 2. Et d'ailleurs, faut te rendre hommage, c'est toi qui avais vachement mis en avant dans le dernier podcast les ajustements payants des Bucks. Et en fait, moi, j'ai le sentiment là, sur ce match, mais même un peu plus globalement, que les Bucks ont repris l'ascendant et j'ai vraiment l'impression que la dynamique est en leur faveur. J'avais dit vendredi à notre collègue Julien Detchoutner qu'ils allaient en gagner 4 de suite et je continue de le penser. En fait, je pense qu'ils vont gagner 4 matchs de suite. Je pense qu'ils sont vraiment. Il y a une espèce de. C'est marrant parce qu'ils gagnent le match de peu, mais on a quand même l'impression qu'ils aient de la marge. C'est ce qu'on se disait entre nous là avant de lancer le podcast. On a l'impression que sur plusieurs aspects du jeu, ils sont quand même au-dessus des Suns en fait. Même si ça joue bien, tu vois, il y a. Notamment au rebond, en défense. Il y a pas mal de trucs où tu sens qu'ils sont dedans, ils sont en confiance et ouais, je les vois bien enchaîner en fait.
Bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Une petite stat pour le rebond, notamment rebond offensif du dernier match, parce que c'est vrai que depuis le début de cette finale et voire même le tour précédent, la finale de Conférence Ouest, on parlait beaucoup des qualités des Suns au rebond offensif. Et là, sur ce match 4, c'est assez frappant parce que 17 rebonds offensifs pour les Bucks, 5 seulement entre guillemets pour les Suns. Je pense que ça fait assez écho à ce dont tu parlais à l'instant, Antoine.
Ouais, et on sait à quel point c'est important. Et ce qui est très fort, je trouve, avec les Bucks, c'est qu'en fait, ils peuvent se permettre de jouer, si tu veux, avec n'importe quel système. Du moment qu'il y a Giannis, ils vont réussir à dominer le rebond. Et bon, il va jouer de toute façon 43-45 minutes sur 48, parce qu'il fait les efforts. On a quand même une superstar qui là fait vraiment des efforts, qui s'arrache. Et il n'y a pas que lui, genre Connaughton aussi, est incroyable au rebond pour un joueur de sa taille, aussi bien défensif qu'offensif. Donc vraiment, il y a une espèce de physiquement, il dégage quelque chose. C'est pas l'équipe la plus belle à avoir joué les Bucks, parce qu'offensivement c'est parfois brouillon et c'est pas forcément du basket champagne comme d'autres équipes ou un peu le cliché, tu sais, des équipes où on aime voir jouer où ça tourne, il y a du mouvement partout tout le temps. C'est pas toujours ça, mais par contre, je trouve que physiquement, ce que dégage cette équipe, c'est assez impressionnant.
Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce match 2 qui était importantissime pour Milwaukee, au final, c'est la sérénité de cette équipe qui, même en début de match, quand les Suns étaient devant et que bah, Giannis a débuté le match de manière un petit peu surprenante, après ces deux matchs à 40 points, on pouvait, enfin à 40 points et plus, on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il soit archi dominant dès la première minute. Et non seulement je l'ai trouvé très patient, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'il cherchait à impliquer tous ses coéquipiers, faire tourner la balle, pas forcer de tir, etc. Et même quand les Bucks avaient l'air d'être un petit peu dans la difficulté, ou plutôt tout simplement on avait l'impression qu'il y avait un petit retard à l'allumage, je les ai trouvés extrêmement sereins. Et finalement, j'ai trouvé que cette sérénité, c'était ce qui ressortait de cette équipe du début à la fin, même si jusque dans les dernières minutes, c'était encore très serré au bout du compte.
Mais au final, elle est... en fait, l'équipe, elle est à l'image de Giannis, tu vois. Quand tu me dis ça, ben moi, ça me fait directement penser à Giannis parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de rappeler que lui, c'est du basket et qui veut aussi s'amuser. Ça ne l'empêche pas d'être un compétiteur, mais c'est quand même voilà, quelqu'un qui ne veut pas paniquer et stresser complètement, même si c'est un match des finales, quel que soit l'enjeu. Et au final, tu renvoies, comme tu as dit, je pense que c'est une hérité. Sérénité, pardon, c'est le mot-clé parce que si tu veux, ses coéquipiers, ils suivent son exemple, ils s'inscrivent dans ce moule, dans cet état d'esprit. Et voilà, ça panique pas. Le fait, pareil, comme tu as dit, qu'ils cherchent pas à forcer absolument, je trouve que ça dénote vachement avec l'image de tout droit que les gens veulent un peu lui donner. Genre, voilà, il fonce dans le tas alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est un joueur intelligent,
Ça
même dans
l'est
sa prise de
de moins en
décision.
moins, je dirais même, au
Oui, ça
final.
l'est, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il l'a été par moments. Mais comme voilà, il mûrit, il lit de mieux en mieux le jeu, il le dit lui-même, il veut vraiment faire le bon choix sur chaque possession. D'ailleurs, à la fin, il donne une passe à Connaughton dans le corner à 3 points, à celui où il repasse devant là sur la fin. Très bon
Complètement.
choix, tu vois. Plutôt que d'aller forcer la pénétration, tu ressors la balle sur ton coéquipier qui est dans le corner, tu lui fais confiance. C'est même pas ta co-star, quoi. C'est un mec du banc et tu lui laisses prendre le tir, t'as confiance en lui. Moi, tout ça, je trouve ça crée vraiment une dynamique autour du groupe qui est intéressante. Je dis pas que c'est pas le cas à Phoenix, hein. C'est vraiment pas. Je cherche pas à mettre en opposition les deux équipes, mais vraiment juste les Bucks. Je trouve que c'est à l'image d'Antetokounmpo et c'est vraiment une superstar spéciale quand même.
Ouais, bah, on est obligé de parler d'Yanis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, a fortiori sur les aspects de compréhension du jeu. Moi, je l'ai trouvé dans ce match, notamment, excellent dans l'animation du jeu. Alors, il y a les passes décisives, bien sûr, mais des fois, il y a la petite passe qui donne la passe décisive. Il y a ces passes de relance où simplement, il voit un coéquipier qui est déjà démarqué devant, il va lui donner la balle tout de suite sans vouloir forcément la pousser lui-même. Je pense qu'une des choses qu'on a sous-estimé avec Yanis, c'est que sa première marge de progression avait été tellement incroyable, tellement extraordinaire, celle qu'il a menée
Tellement
de
rapide.
rookie, tout jeune adolescent, jeune adulte, jusqu'à MVP, que en voyant ses échecs en playoff l'année dernière et l'année précédente, on a commencé à imaginer que c'était un produit fini. Et au bout du compte, ce qu'il est, voilà, je pense que ça saute aux yeux, c'est que c'est un joueur qui est encore en progression, et notamment dans ses aspects de collectif, de compréhension et de lecture du jeu. J'ai le sentiment, moi, qu'il a franchi un cap ou qu'il est en train de franchir un cap de ce côté-là devant nos yeux.
Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Et il y a ce qu'il fait, tu vois, comme tu dis, les petits décalages, tu vois, en dribble ou plutôt, voilà, il va juste faire bouger un peu la défense avant de ressortir et de laisser quelqu'un d'autre profiter, si tu veux, de cet espace que lui a créé pour attaquer. Et il y a aussi ce qu'il fait pas, c'est-à-dire qu'il y a les moments, quand ce qu'il fait pas, je parle de manière positive, c'est-à-dire les moments, tu sais, où il va lui-même se mettre en retrait parce qu'il sent que c'est pas à lui d'y aller. Les moments où il va juste se contenter de poser un écran. Comme si c'était, je sais pas, Nerlens Noël ou un pivot lambda, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant de sa part parce qu'il était, en fait, j'ai trouvé que ce match, même si on le garde un peu comme si tu veux, ça va être le Middleton game, tu vois, parce que voilà, Middleton a mis les paniers à la fin. J'ai l'impression que cette victoire, il y a vraiment l'empreinte de Giannis de A à Z, quoi. Sur toute la partie en défense, à la création, au rebond, dans les efforts, surtout. Tout du long, quand il est là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Je suis à 200% d'accord avec toi. Pour moi, c'est clairement de la première à la dernière minute le joueur qui a le plus pesé sur le jeu. Et ce que tu notais tout à l'heure sur sa capacité à simplement aller porter un écran, ce que j'aime et ce qui est vraiment inédit, alors peut-être pas, sans doute pas inédit, ça, mais il faudrait vraiment se creuser la tête pour trouver ça, c'est qu'il ne se contente pas d'aller porter l'écran, en fait. Il porte l'écran, il roule pour mobiliser la défense, il va au rebond offensif systématiquement. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression qu'il fait tout le travail, enfin, ce n'est pas les mêmes joueurs, mais tu vois, le travail que peut faire un Rudy Gobert à Utah, il fait ça tout en ayant en plus la capacité parfois de claquer 2 matchs de suite à 40 points en finale,
Clairement.
de pousser la balle, d'être l'animateur du jeu. Et donc, en fait, il est dans cette palette de basketteur total, peut-être. Le terme n'est peut-être pas trop fort, franchement, pour Yanis. Il y
Non,
a de
je
la
trouve ça bien, ouais.
défense, il y a de l'attaque, il y a du rôle de l'ombre, et puis il y a plein de moments où c'est lui qui est dans la lumière. Mais ça, effectivement, c'est vraiment admirable pour un joueur de cette carrière, qui a été était déjà deux fois MVP. On connaît très bien des joueurs qui n'ont même pas eu sur le CV qu'à Giannis et qui, parce qu'ils étaient des superstars, se sont refusés longtemps à faire les efforts en plus ou à faire une partie du sale boulot qui leur aurait peut-être permis d'atteindre un autre palier.
J'en ai deux en tête, hein. Juste Dwight Howard et André Drummond. Ils refusent de poser des écrans, tu vois, pendant une majeure partie de leur carrière, alors qu'on est quand même sur un autre type de joueur. Il a la domination physique et athlétique d'une superstar comme Shaq, c'est façon de parler, mais il y a un rapprochement évident, que je trouve évident, entre le Shaq de Orlando et le Giannis actuel. Il a l'état d'esprit du role-player qu'il était à ses débuts. Le gars qui devait se bouger dans tous les sens pour ne serait-ce que jouer des minutes, parce qu'il est quand même arrivé à 18 ans en sortant de nulle part et il a réussi à gagner des minutes. Et il a aussi le leadership de la star qui va tirer tout son groupe vers le haut. Et franchement, le mélange des trois est très intéressant. Et je pense que, comme tu as dit, il a encore une vraie marge de progression, en fait. C'est ça le plus effrayant. C'est dingue, là.
On a vu au match 3 la différence que ça fait pour Milwaukee quand il met 70% de ses lancers francs sur un match. Ça change totalement la dynamique de son équipe. Ça fait que Milwaukee gagne de 20 points tout à coup.
C'est ce que j'allais dire, tu finis en blowout.
Ça fait une différence énorme. Mais ça, voilà, on sait. Alors, on ne sait pas à quelle vitesse il va progresser au lancer franc. Mais c'est quand même un des domaines où si on se donne les moyens et qu'on ne lâche pas l'affaire, et vu sa personnalité, je serais très étonné qu'il s'arrête en chemin. Il va forcément progresser d'année en année, en année. Et voilà, quand on a un bagage comme le sien, tu parlais de Shaq. Moi, clairement, j'avais, notamment, c'est la réflexion que je me faisais en regardant le match 3, c'est que je n'avais pas souvenir depuis Shaq d'avoir vu un joueur dominer à ce point un match physiquement, dans le sens où c'est pas les mêmes joueurs, on est bien d'accord. À partir du moment où il s'est dit je vais attaquer, personne avait la capacité de faire quoi que ce soit, en fait. Tu avais l'impression que c'était une simple question de détermination, et vu ses qualités physiques, athlétiques, etc., tu peux juste espérer qu'il rate ou faire faute en l'envoyant sur la ligne de lancer franc. Mais quand il met ses lancers francs, ça devenait vraiment le casse-tête insoluble pour Phoenix.
Mais c'est ça, j'ai l'impression que les Suns n'ont aucune solution, en fait, pour Giannis, parce que même Ayton, qui fait des beaux playoffs, physiquement, il n'est pas au niveau de Giannis, en fait. On n'est quand même pas sur le même si c'est lui-même une espèce d'anomalie, si tu veux, on n'est quand même pas sur la mobilité et la puissance, en tout cas le mix des deux, de Giannis. On sent qu'ils n'ont pas le même âge, en fait. C'est fou, mais il y en a, c'est son petit, quoi. Tu vois, il lui dit, attends, là, si je veux travailler, je te travaille. Et c'est fort, franchement, c'est fort. Et tu vois, sur les lancers, clairement, moi, je pense qu'il y a tout à fait moyen que dans le futur, ce soit un gars qui mette au moins 70% de ses lancers. Il a déjà beaucoup progressé à mi-distance. Les gens ne se rendent pas compte, enfin, les gens, je parle de manière globale. En tout cas, ceux qui pensent qu'il n'a aucun skills se trompe sur Giannis, qui est constamment en progression à mi-distance, qui est un meilleur tireur depuis 2 ans en termes d'adresse qu'Anthony Davis à mi-distance, qui est quand même une bonne référence à mi-distance. Lui aussi, il a une bonne patte. Alors, ils n'ont pas la même mécanique, hein. Mais sur un volume à peu près similaire, en fait, Giannis a un meilleur pourcentage depuis 2 saisons déjà, et je pense que ça va continuer. Je ne le vois pas, je ne l'imagine pas devenir un vrai tireur à 3 points un jour, tu vois, cette espèce de fantasme qu'on a, vu que c'est la NBA moderne à la Curry. Je ne pense pas qu'il le deviendra. Par contre, s'il met 38, 39, 40% de ses tirs en mi-distance et que constamment en tête de raquette, tu ne peux pas le laisser, sachant que de toute façon, il va tirer au-dessus de toi parce qu'il fait 2m13, ça devient costaud pour l'arrêter. Hein.
Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est au-delà des tirs à 3 points, où il en met un de temps en temps, c'est du bonus, mais c'est ce tir dont tu parles, là, des deux elbows ou de la ligne des lancers francs.
Voilà,
quand tu vois la régularité qu'ont réussi à avoir des joueurs comme Chris Webber, Amar'e Stoudemire, qui n'était pas un shooter du tout non plus, et qui est devenu un tueur vraiment de cette distance-là. On ne va pas aller chercher Dirk Nowitzki, parce que là, c'est un autre calibre de joueur.
Mais il a mis des petits tirs à la Dirk.
Absolument, notamment sur une séquence où DeAndre Ayton a défendu à la perfection, et là tu défends, t'empêches le drive sur Giannis sans faire faute, les mains levées, il recule en prenant un tir à la Dirk. En gros, tu peux rien faire. Mais c'est vrai que après à ce stade-là de la compétition, sur les meilleurs joueurs, tu sais de toute façon que tu pourras pas les stopper. Que ce soit un Kevin Durant, un Giannis, un James Harden, Stephen Curry, tu sais que tu pourras pas vraiment les stopper. La question, c'est de savoir si tu pourras les faire travailler pour que vraiment leur faire mériter chaque point qui vont scorer, et tu vas essayer de stopper ou de limiter les autres. Et je voudrais te lancer sur la suite, parce qu'en fait, sur cette notion de faire travailler les autres, moi, je voudrais qu'on fasse un petit point, une seconde, sur Jrue Holiday, parce que je trouve qu'au bout du compte, ces lignes de stats dans les box scores sont très trompeuses sur les deux derniers matchs, notamment sur le quatrième. Ça me fait un petit peu mal, parce que j'aime beaucoup ce joueur, de le voir rater autant de tirs, mais la dureté physique qu'il impose à Devin Booker et à Chris Paul du début à la fin du match, à la fois quand il défend et je dirais aussi, voire encore plus quand c'est lui qui attaque, j'ai le sentiment que c'est un élément clé très important de cette série, notamment pour les trois matchs qui restent à jouer.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je vais reprendre quelque chose que tu avais déjà dit dans un autre podcast sur le fait que Holiday, en tout cas, on en avait parlé déjà une fois, je pense, pour un podcast, que Holiday, il est dans un rôle qui n'est pas censé être le sien. C'est-à-dire qu'à Milwaukee, si on remonte quand même un peu quelques mois en arrière, il ne faut pas oublier que Milwaukee, ils avaient prévu de faire un coup double où ils prenaient Holiday et Bogdan Bogdanovic pour les ajouter à Chris Middleton et Giannis. Et je pense que dans leur tête, Holiday, c'était pas le troisième playmaker, c'était carrément le quatrième, derrière Bogdan, derrière Giannis, enfin Giannis en playmaker.
Au scoring en tout cas, mais peut-être.
Oui, au scoring, ouais, ouais. Voilà. Pas forcément dans la gestion, plus au scoring, effectivement. Dans l'agression, peut-être, tu vois, dans l'agression vers le cercle. Et du coup, là, il se retrouve dans un rôle, pas qui n'est pas le sien, mais qui est peut-être en attaque un peu plus grand que ce qu'il devrait avoir. Et il se retrouve obligé d'assumer. Et du coup, effectivement, comme tu dis, pour en venir, on se concentre peut-être sur ses tirs ratés, alors qu'effectivement, sa défense est impressionnante. Il est en train de complètement manger Chris Paul. Et heureusement, d'ailleurs, parce que s'il ne faisait pas ça, tu serais tenté de te dire, bon, bah, en fait, là, s'il ne défend pas, tu le mets sur le banc, quoi. Tu ne peux pas plus le faire jouer parce qu'en attaque, c'est chaud. Mais voilà, ce qui est encourageant, c'est que tant qu'il défend, c'est-à-dire qu'il reste impliqué. Tant qu'il reste impliqué, il est dans le rythme du match, il apporte vraiment quelque chose. Et quand on répète, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, il y a forcément un moment où, vu que tu es dedans, tu es dans le rythme, tu es impliqué, tu vas finir par marquer, ça va finir par venir, tu vois. Je pense qu'il y a peut-être aussi un semi-blocage mental, mais maintenant qu'ils sont revenus à 2-2, ça ne m'étonnerait pas que Giannis lui continue à lui dire « Bon, ben voilà, il faut que tu shootes, il faut que tu ailles, prends ta chance, prends ta chance, prends ta chance. » Et en fait, à un moment, juste, ça va rentrer. Et là, les Bucks qui gagnent déjà les matchs comme ça, si en plus Holiday, il se met à mettre des tirs, mais ah, tu gagnes de 15 points, en fait, derrière.
Ben, ouais, potentiellement, c'est exactement ça. Et parce que ce qui... Voilà, je roule l'idée. Bon, moi, j'aime beaucoup ce joueur, hein, en toute honnêteté, mais c'est vrai que ce qui fait un peu bizarre dans ces finales, c'est qu'on parfois on a l'impression qu'il joue à contre-temps, qu'il force des situations là où il n'y a pas forcément où ça ne serait pas forcément à lui de le faire, où il n'a pas forcément le tempérament pour le faire. Mais ce que j'ai trouvé intéressant vraiment dans ce match-là en particulier, dans le match 4, pour revenir là-dessus, c'est le travail que ça a demandé à Chris Paul et à Devin Booker d'un point de vue physique pour essayer de le contenir, parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la dureté physique et de sa puissance qu'il a pour sa position. C'est vraiment, il est vraiment extrêmement impressionnant de ce point de vue-là.
Et
tu disais?
Ouais, je disais, il est tanky, quoi. Il est
exactement. Il est carré, ouais. Et il est dur et il se sert vraiment de sa puissance pour émousser petit à petit ses adversaires. Alors c'est un peu particulier parce que je dis ça alors que Devin Booker a mis 42 points, mais il faut rendre hommage à Devin Booker parce que sur ses 42 points, il y a un paquet de tirs qu'il a mis qui sont vraiment compliqués parce que Jrue Holiday lui impose cette dureté, ce physique, etc. Et sans un Jrue Holiday à ce niveau-là, Devin Booker, peut-être qu'il en met 50 sur un match comme ça.
Mais tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à un espèce de paradoxe qu'il y a sur les Suns quand je regardais ce match. C'est que d'un côté, les Suns, ils mettent des tirs très difficiles. Où tu te dis, tu vois, enfin Booker surtout a mis des millions. Voilà, il n'est pas fan de Kobe par hasard, quoi. Il y a des fadeaways à mi-distance, des trucs où il a la main devant la tête, devant le visage, et il les met quand même. Mais d'un autre côté, pour donner un peu d'espoir aux Suns, quand il y a des attaques placées, tu es quand même plus serein pour les Suns que pour les Bucks. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils vont plus facilement marquer, alors que pourtant, c'est des tirs difficiles qu'ils mettent, tu vois. Mais ils dégagent quand même un truc. Tu te dis, ah ouais, mais à n'importe quel moment, Booker, en fait, il peut faire la différence ou Chris Paul peut faire la différence. Alors que pour les Bucks, tu as toujours un peu cette espèce de suspense de dire, mais comment ils vont faire là en fait pour marquer? Mais bon.
Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que déjà, même avant l'arrivée de Chris Paul cette année, l'an dernier, je trouvais que Phoenix avait une gestion du spacing notamment qui était magnifique. C'était voilà, il y avait c'était pas le même niveau de jeu qu'avec Chris Paul, mais il y avait déjà la touche Monty Williams dans le spacing, dans le mouvement, etc. Et là, moi, ce qui me plaît beaucoup offensivement avec Phoenix, malgré la qualité de la défense de Milwaukee, hein, parce que ça aussi, enfin, faut aussi rendre hommage à Phoenix de donner cette impression visuelle, vu la dureté physique en défense
Clairement.
qu'impose Milwaukee. Mais c'est qu'il y a une fluidité dans le jeu, en fait. Ça passe d'une action à une autre action. Les joueurs continuent d'être en mouvement, même quand il y a un renversement, tout s'enchaîne dans une sorte de fluidité qu'on ne retrouve pas effectivement du côté de Phoenix, où tu as l'impression qu'il y a un temps, deux temps d'attaque, et derrière, ça va être, Middleton, vas-y, débrouille-toi, va nous mettre un panier
Mais
ou Yanis trouve une solution, mais t'as pas effectivement cette sensation de continuité de jeu, je trouve que tu retrouves à Phoenix.
oui, clairement, Phoenix joue super bien au basket et c'est marrant comment ils ont réussi à intégrer au final n'importe quel joueur qui prenne, qui se met dans le moule. Les Cameron, moi je suis impressionné par Cameron Johnson
Ah, complètement, il a une
depuis le début
efficacité
des
qui est
finales.
incroyable.
Il y a vraiment quelque chose, quoi. Il est bon. Bon, par contre, les Suns aiment bien flopper, mais je ne sais pas si tu as vu l'action où il fait semblant de se blesser à la cheville avant de se relever.
Normal, il a glissé tout seul. Attends, qu'est-ce que tu passes?
Mais franchement, ouais, ça joue bien au basket. Du coup, ils ont évidemment des raisons d'y croire, hein. Mais j'ai un peu plus de mal à. J'ai l'impression que la dynamique est vraiment en faveur de Milwaukee, tu vois.
Ouais, c'est franchement, c'est vrai que c'était pas gagné. Moi, ce que je trouve enfin, là où ils m'ont impressionné malgré tout sur ce match, Milwaukee, et je reviens sur cette notion de sérénité, c'est que quand on parlait d'eux en début de série, et je vous avais dit, il me semble que j'avais l'impression que la seule manière pour Milwaukee de pouvoir gagner des matchs, ce serait en les gagnant avec une large avance. Parce que,
Ouais.
en cas de match serré, je mettais l'avantage du côté de Phoenix à cause de leur qualité, leur capacité à mettre des lancers francs à un pourcentage impressionnant et parce qu'ils ont Chris Paul. Et moi, encore une fois, ce que j'ai trouvé admirable sur cette fin de match hier, c'est la sérénité. Chaque bonne possession, ils les ont gérées à merveille. On peut revenir vite fait, mais le contre de Giannis sur DeAndre Ayton, c'est probablement l'action déterminante et décisive de
Incroyable.
cette fin de match. C'est voilà, tu as l'impression qu'ils ont su sortir la bonne carte à chaque fois qu'il le fallait dans cette fin de match.
Mais tu vois, c'est bien, ça fait de bonnes transitions parce qu'en vrai, sur les deux premiers matchs, alors surtout sur le premier, mais je pense que l'impression était aussi vraie sur le second. Il y avait une vraie un sentiment de maîtrise aux Suns, à Phoenix. J'ai vraiment trouvé que sur les deux premiers matchs, ils n'avaient pas de temps faible. Alors le match 2 est un peu particulier parce qu'ils ont une énorme adresse à 3 points qui, je pense, fausse, pas le résultat, mais tu vois l'esprit qu'on peut garder de la rencontre. Mais dans l'ensemble, même sur le match 2, même si les Bucks avaient fait les bons ajustements, il y avait une forme de maîtrise. Et en fait, elle s'évapore là, je trouve. Et au final, elle s'évapore de la même manière que Chris Paul commence clairement à montrer des signes de fatigue. Et c'est là, on en revient à Holiday, à ce que tu disais sur bah voilà, la superstar adverse. Tu ne peux pas l'arrêter complètement, mais au moins tu peux la faire bosser au max. Et en fait, je pense que tu n'as pas mieux en NBA que Holiday, en tout cas sur les postes extérieurs, pour faire bosser ta star au max. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Lillard qui le dit, c'est Jamal Murray qui le dit. C'est le meilleur défenseur extérieur de la ligue sur les meneurs, sur les arrières. Et il est en train de croquer Chris Paul. En fait, physiquement, il lui fait trop de mal. Et c'est là où on voit la taille de Chris Paul. Souvent, lui a été perçu un peu comme une limite. Tu sens là qu'il est en souffrance un peu, même s'il est blessé aussi, tu vois. Mais
Ah bah je suis totalement d'accord. Et ce que je trouve impressionnant avec Jrue Holiday par rapport à d'autres excellents défenseurs sur les postes arrière dans la ligue, c'est qu'il arrive à faire ça tout en étant extrêmement physique, sans faire trop de fautes. Et finalement, quand on regarde les autres excellents défenseurs sur ces postes-là, c'est des gens qui vont beaucoup gêner avec leur envergure de bras, qui vont mettre les mains sur les ballons, qui vont perturber la vision au moment du tir. Mais il n'y a pas forcément cette notion de défi physique qu'on retrouvait beaucoup plus avant les changements de règles, etc. Et là, ce qui est manifeste, je trouve, avec Jrue Holiday, c'est que le nombre de fois il va réussir à venir au contact, puis reculer, venir au contact, puis reculer, les mains levées toujours, sans faire faute, vraiment toujours dans le respect du code de jeu. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, auquel, au bout du compte, les meilleurs joueurs extérieurs adverses sont peu habitués maintenant.
Ouais, ouais. Bah ouais.
Avec les règles, avec les changements de règles, finalement, ils ont peu cette habitude. Et là, quand tu dois te le coltiner sur une série de 7 matchs, match après match, tu sais qu'il va être là, qu'il marque ou qu'il ne marque pas, il va rester sur le terrain et il va être là. Et il y a un moment où ça doit quand même commencer à peser, surtout, enfin là, on va forcément parler de Chris Paul, mais c'est vrai qu'au-delà des pertes de balles, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce match, ce n'est pas tant les pertes de balles en elles-mêmes, c'est le type de perte de balles, quoi. Il y a littéralement des moments où il a envoyé des ballons où il y avait, à des endroits où il n'y avait pas de joueurs, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu Chris Paul faire dans un match, surtout un match en jeu.
Bah, la dernière fois qu'on l'a vu, je pense que c'était contre le Thunder en 2014.
Ouais.
Ça fait forcément, moi, ça m'y a fait penser, hein, forcément. Hein, surtout à la fin, il en perd deux, je pense, dans la dernière minute 30, dans les 90 dernières secondes, dont celle qui mène à la contre-attaque de Middleton, quand du coup, ils prennent plus 4. Mais tu vois, sur Chris Paul, du coup, je me demande, est-ce que c'est... Est-ce... Parce que moi, je ne crois pas à cette espèce de théorie du choke, tu vois. Je pense juste que bah, forcément, il y a une part de mental, mais il y a aussi de la fatigue qui s'instaure à force d'être défendu par Holiday, à force d'enchaîner les matchs, et d'avoir un défi physique sur 40 minutes. Bah, voilà, tu as moins de lucidité. Et je pense que Holiday est en train de faire vraiment... C'est un game changer, quoi, sur cet aspect précis. Après, je pense que Chris Paul va bien rebondir sur le Game 5. Je ne vois pas forcément les Suns gagner, mais je vois bien Chris Paul sortir un match un peu plus bonhomme.
Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, on connaît Chris Paul. Je vais pas parier contre lui et dire que ce match-là reflétera la suite des matchs. Par contre, effectivement, c'est ce que tu notais. Il y a une fatigue quand même qui, sur ce match-là, en tout cas, était visible, notable. Et quelque part, alors bon, la question que je me pose, c'est ça, en fait. C'est que ce groupe de Phoenix, là, incroyable, on l'a salué à plusieurs reprises. Tu sens que les gens s'entendent bien, qu'ils ont peur de rien. Ils découvrent, en même temps, pour certains, il n'y a pas vraiment de pression parce que c'est leur première fois. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, finalement, qui ont tout à gagner et peu de choses à perdre. Mais là, ça va être intéressant de voir la réaction de Chris Paul à la fois dans le jeu et aussi en tant que leader, parce qu'avec un groupe aussi peu inexpérimenté, finalement, la limite, elle est peut-être potentiellement là aussi. C'est de savoir si ton leader trouve pas les moyens de relancer le groupe ou semble trop frustré. Moi, j'ai trouvé, tu vois, que sur la fin de match, par exemple, il y a trop de joueurs de Phoenix qui parlent aux arbitres. Devin Booker fait un super match, il y a trop de moments où il parle aux arbitres. Parce qu'il y a un moment où les arbitres avaient accepté une certaine forme de dureté, et là, faut que tu joues avec. J'enlève rien à la performance de Devin Booker, mais en fait, parfois, ce type de comportement, surtout avec un jeune groupe, ça peut vite être... comment dire, laisser la place à ce que chacun se démobilise un petit peu,
oui,
et commence à se dire
match.
Ouais, c'est la faute des arbitres, nanana. Et puis, oui, au bout du compte, que ce soit la faute des arbitres ou pas, le match, il faut le gagner. Parce que si tu le perds, ça a beau être la faute des arbitres, tu auras perdu le match et tu ne pourras plus rien y faire.
Mais c'est là où on en vient à une des raisons, en fait, que j'avais fait dans un papier là où je disais pourquoi Milwaukee pouvait encore gagner là. Après je crois que c'était après le 0-2.
Après le match de ouais,
fait,
absolument.
Ouais, j'avais fait ça. Et en fait, pour moi, il y avait la gestion de l'adversité. C'est-à-dire que je ne dis pas que les Suns n'ont pas rencontré d'adversité, parce qu'il y en a quand même eu. Ils menaient 2-0 contre les Clippers, il y a eu 2-2. Mais ce n'est pas la même adversité, ou même contre les Lakers, ils ont été menés 2-1 et en fait, ils ont gagné. Mais ce n'est pas la même adversité quand déjà, même si c'est injuste à dire, mais tu sais que tu vas jouer les Clippers qui n'ont pas Leonard. Dans tous les cas, même s'ils sont revenus à 2-2, tu sais que quoi qu'il arrive, eux, ils se sont crevés comme je ne sais pas quoi pour y revenir à 2-2 parce qu'ils n'ont pas leur superstar. Pareil, quand tu bats les Lakers, c'est un peu dur hein, comme constat. Je sais pas aussi vrai que ça, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense que dans la tête, ça ne fait pas le même effet. J'ai l'impression que là, ils vont être face à une adversité qu'ils ne connaissent pas vraiment, qu'ils n'ont jamais rencontrée. C'est-à-dire que la dynamique est clairement en faveur de l'autre équipe. Ils sont revenus à 2-2, ils sont complets, ils ont un Giannis qui monte complètement en puissance, et toi, tu dois gérer ça. Et c'est là, pareil, j'ai fait le même constat que toi, moi aussi, pendant le match. Il y a Booker qui se plaint sur les arbitres à la fin, alors que jamais il doit finir le match. Hein. Les trois dernières minutes, sa faute sur Holiday.
Il est énorme sur jouer Holiday, ouais.
Elle est énorme. Elle est presque. En fait, et même là, tu te dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce qu'il sait qu'il a cinq fautes. Il vient de rentrer, il n'y a même pas une minute. comment tu as l'impression qu'il fait une faute intentionnelle. Tu sais, j'ai l'impression
que les fautes,
ils veulent stopper la contre-attaque et l'attrape, tu baisses les bras. En fait, tu dis, mais si là, qu'est-ce que tu fais ? T'as craqué, tu vois. Et en plus, il ne fait pas une faute sur cette action-là. Il en fait deux, en fait, deux ou trois, tu vois. Il commence, il continue, il enchaîne. Et tu te dis, mais déjà, tu ne devrais pas avoir à te plaindre parce que tu as vraiment de la chance d'être encore sur le terrain. Il y a Jake Crowder qui s'est plaint. Ils sont sortis du truc. Et là, je pense qu'il y a une forme de nervosité qui va s'installer. Même s'ils ont toujours cette insouciance de la jeunesse, en plus, Paul n'a jamais joué des finales. Donc, Chris Paul, alors il est expérimenté, hein, ce n'est pas un leader jeune, mais lui-même ne s'est jamais retrouvé vraiment dans cette position, même si je pense que, comme tu disais une fois, lui, tour 1, tour 2, tour 3, finale, pour lui, dans sa tête, c'était toujours des finales. Donc, il sait gérer, mais ça va être intéressant comment les autres répondent à ça, en fait.
Ouais, et puis là, il va y avoir une question aussi. Ça va être intéressant de voir les ajustements de Monty Williams, s'il en fait, et quels ajustements ce sera. Parce que moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la manière dont Milwaukee a réussi à limiter l'impact de DeAndre Ayton, qui a été, encore une fois, extraordinaire, excellent au rebond, mais qui n'a pas du tout eu le rayonnement offensif qu'il avait pu avoir dans les deux premiers matchs. Et j'ai eu l'impression que, en fait, l'ajustement avait été un ajustement collectif, en fait. Là, c'est-à-dire que les PJ Tucker, les Bobby Portis, tous les remplaçants, les Connaughton, tout le monde va au rebond, tout le monde vient gêner, et finalement, ils n'ont pas essayé de le limiter en se disant bon bah, on va plutôt lui proposer ce match-up-là. Mais c'était une réaction collective, et dans la dureté, c'est un petit peu ce dont tu parlais au début du match, la dureté des Bucks là, sur ce match et sur les matchs précédents. Clairement, ils ont pris l'ascendant, du moins en tout cas dans cet ordre-là. C'est eux qui ont apporté la dureté, qui ont été les plus durs. Alors, ce n'est pas pour dire que Phoenix a joué en étant soft du tout, ce n'est pas ça. Mais simplement, ils n'ont pas attendu de se faire gifler pour en coller une. Pardonnez-moi l'expression, mais en gros, ils sont tout de suite arrivés, un peu comme disait Bobby Portis, là, comme si, en s'imaginant que les adversaires avaient giflé leur mère devant eux à une fête de Noël ou je ne sais pas quoi. Et ils sont arrivés le couteau entre les dents de la première à la dernière minute. Mais j'ai eu le sentiment que c'était vraiment quelque chose d'une prise de conscience collective où du premier au dernier mec, à être rentré sur le terrain, il y avait cette idée de on va être dur, on va sortir sur les shooters, on va aller contester au rebond et on va le faire tous ensemble.
Et c'est aussi ça le sport, parce que c'est le basket, je sais que c'est noble de savoir tirer, tu vois, d'être fluide, de pratiquer du jeu de passe, mais c'est aussi, ça reste du sport, ça reste un exercice physique, et enfin, c'est con quand je le dis comme ça, mais les équipes athlétiques, c'est aussi une qualité, c'est aussi un skill. Le Thunder était impressionnant à ce niveau-là, le Thunder de Westbrook et Durant, et c'est vraiment pas passé loin pour qu'ils gagnent un titre en s'appuyant essentiellement sur ça, sur
même quoi,
de la force athlétique en défense.
Ouais, quand ils avaient passé San Antonio, par exemple, San Antonio qui proposait déjà un jeu fabuleux, mais qui n'avait pas su gérer cette notion physique dont tu parles.
Oui, parce que tu as Ibaka, Robertson, les longs bras de Durant, et tu as Westbrook remonté sur ressort, et tu dois gérer ces mecs-là, et c'est dur.
Et mon gars Stephen Adams.
Ouais, après, oui, aussi, oui, avec, évidemment. Ouais. Et en fait, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas pour dire que les Suns sont soft. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de se mettre à ce niveau d'intensité et de, en tout cas sur tout un match ou même sur toute une série, ce niveau d'intensité physique. Le défi physique que proposent les Bucks, je pense que les Clippers en grande forme peuvent peut-être être la seule équipe de la Ligue à y répondre, en fait. À vraiment avoir les armes pour se dire « Ok, waouh, là, il faut qu'on parte à la guerre, c'est la bagarre, faut se déchirer sur le terrain. »
Ouais, non, mais ça va être vraiment intéressant à suivre dans les prochains matchs. Je trouve, au bout du compte, je trouve que les scores sont assez trompeurs dans tous les matchs de cette série. Tout est vraiment très serré. Tu te dis « Bon, bah, finalement, ça se joue à un ou deux détails ou à… » une ou deux mini contre-performances individuelles. Donc, ça va vraiment être compliqué de voir. C'est compliqué de faire un pronostic, même si là, effectivement, on peut se dire que les Bucks ont retrouvé de l'élan. Je pense quand même que les yeux de tout le monde sont braqués sur Chris Paul, parce que quoi qu'il arrive, Phoenix pourra pas être champion si Chris Paul trouve pas les réserves pour mieux jouer que ce qu'il a pu faire sur les deux derniers matchs. Je pense qu'il a le. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de talent. Ça va être vraiment une question. C'est pas une question de choquer, comme tu disais tout à l'heure. Là, je pense que c'est impropre finalement cette réputation qu'on essaie de donner à Chris Paul de ce point de vue-là. Par contre, voilà, ça va être de voir s'il va pouvoir retrouver les moyens physiques qui lui permettront d'être à fond jusqu'à la fin de la série.
Oui, et puis sur combien de matchs il va pouvoir le faire, en fait, parce que même si les Suns venaient à gagner, c'est ça le pire, en fait, c'est que même si les Suns venaient à gagner le Game 5, qui est quand même souvent considéré comme pivot, j'arriverais pas à me dire que c'est mort, parce que les Bucks, ils sont tout à fait capables, sur deux matchs, tu vois, de complètement t'étouffer. Alors qu'à l'inverse, si les Bucks gagnent le Game 5, je n'arrive pas du tout à imaginer les Suns aller chercher la victoire, enfin, tu sais, pour égaliser,
Gagner de
arracher le Game
suite.
7.
Ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que je laisse cette marge, tu vois, quand même à Milwaukee. C'est-à-dire que je ne me dis pas qu'ils vont gagner à 100%, mais j'ai l'impression qu'ils ont une marge. Tu vois, sur le match d'hier, au final, on en parlait en off, les Suns, ils shootent à plus de 50%, les Bucks, ils shootent à 40%, ils ne mettent pas un caillou à 3 points et ils gagnent le match, quoi. Et ils gagnent le match. En fait, ils ont cette capacité à se sortir de situations sans que tu comprennes trop comment. Et voilà, Middleton, je pense que ce match-là va le mettre en confiance lui aussi, mine de rien. Même s'il manquait sans doute pas de confiance. Hein. Holiday dit que Middleton a peur de rien, et j'y crois. Mais quelque part, voilà, tu sors d'un match à 40 points, tu abordes le match 5 dans un état d'esprit différent que si tu avais fait 4 sur 18. Tu vois, donc
De toute
clairement,
façon,
je pense que
Chris Middleton, c'est un petit peu Derrick Rose ou Kawhi Leonard 2.0, hein, parce que le nombre de fois où tu le vois soit énervé, soit rigolard, ça arrive jamais en fait. Il a la même tête du début à la fin du match, quelle que soit la situation.
il lui manque de la régularité, pardon, pour être vraiment parmi les plus grands, mais tu sais que c'est un trop bon joueur pour se planter tout le temps, en fait. Et tu vois, il y a forcément des matchs où il va se mettre dedans et tu vas devoir gérer avec. Et en fait, c'est marrant parce que Milwaukee trouve les moyens de tenir ou de gagner même sans ça. Et du coup, en fait, dès qu'il y a Middleton ou Holiday qui claquent un bon match, c'est du bonus, quoi.
Ouais. Mais ceci dit, c'est marrant parce que maintenant que tu fais référence, Jrue Holiday, c'est pareil, quoi. Tu mets une photo d'eux après une victoire ou après une défaite, je te mets au défi de savoir quel est le match qu'ils ont gagné, quoi. Et quelque part, des fois, ça peut être aussi une force, hein, d'arriver à rester jamais trop bas. Enfin, c'est un petit peu un cliché du sport pro, mais les athlètes qui arrivent à rester neutres un petit peu dans cette zone de confort sans trop s'emballer, finalement, sur une série aussi longue, ça peut jouer aussi.
Ouais, clairement. Après, Holiday, je me demande quand même dans quelle mesure ça l'affecte pas un petit peu de manquer, tu sais, quelques paniers faciles. Mais bon, comme ils ne sont pas punis, qu'ils ne sont pas à 3-1 et qu'ils sont à 2-2, bon, j'ai envie de me dire qu'il y a quand même un moment, voilà, il fait un match, s'il fait un match à 22 points, tu sais, 22, 24 points, j'arrive
Même
pas à imaginer Milwaukee perdre ce match, tu vois.
s'il fait un match à plus de 50% de réussite au tir, peu importe combien de points il aura marqué, en fait, la marge de Milwaukee, elle est là. Ce qui fait peur, parce que effectivement, comme on en parlait un petit peu avec Antoine avant de prendre l'antenne pour le podcast, c'est que finalement, si on croit la loi des probabilités, c'est que plus Jrue Holiday se foire en attaque, plus il sera proche du match où il va claquer un 22 points ou un 27 points, avec un excellent pourcentage. Donc, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Phoenix.
Non, clairement, ouais. Clairement. Après, faut voir. J'arrive pas à savoir, au final, au-delà de Chris Paul, quelles sont les ressources de Phoenix. Tu vois, comment ils peuvent reprendre le contrôle de la série autrement que par un grand Chris Paul? Je suis pas sûr qu'il y ait une solution, tu vois.
Non,
Et jouer très dur.
je suis d'accord avec toi, d'autant que, en fait, un grand Chris Paul, de mon point de vue, ça veut dire un meilleur DeAndre Ayton, ça veut dire un meilleur Mikal Bridges. C'est qu'il a ce
Ouais,
type de
bien sûr.
rayonnement global qui fait qu'une fois, s'il est vraiment au top de sa forme et au meilleur de ses capacités, il y a un rayonnement sur l'équipe qui est automatique quasiment. Donc pour Phoenix, c'est clair qu'une partie du nœud du problème se trouve là. Et puis oui, ça va être là, effectivement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que sur ce match 5, J'ai l'impression que la pression est avant tout sur Phoenix, notamment parce qu'ils retournent à domicile et que bah, pour l'instant, ils ont gagné dans cette série qu'à domicile. Donc, si tu perds chez toi, tu te mets vraiment en difficulté en disant qu'il faut absolument que j'aille gagner à l'extérieur pour rester dans la série. Et aussi pour les. Donc pour cette raison, d'une part, et d'autre part, pour ce que bah, ce qu'on disait juste avant, c'est que tu as l'impression que Milwaukee, même si, même après le match 2, ils n'avaient pas l'air en pression ni particulièrement déprimés. Tu as un peu l'impression que même s'ils devaient perdre ce match 5, ils repartiraient en disant bah, de toute façon, on va gagner le match 6. Un
Ouais,
petit peu de manière ultra réaliste.
exactement.
De toute façon, bah, si on veut gagner le titre, il faut qu'on gagne le match 6. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête et de déprimer, quoi.
Bah, ils sont déjà passés par là en fait, et tu le sens, tu vois, sur les Nets, ils ont quand même en plus face à une très grosse équipe, bah voilà, pareil, ils étaient menés 2-0, alors ils ont profité aussi un petit peu forcément des blessures de Kyrie, puis du retour un peu limité d'Harden, mais quand même, tu vois, t'as quand même ils ont quand même réussi à se retrouver dos au mur, à se relever et à passer. Et ils étaient menés 3-2 d'ailleurs, je crois qu'ils perdent le 5, je dis pas de bêtises. Ils perdent le 5, je crois, contre les Nets.
Faudrait que je regarde
Il me semble que c'est le gros
en
match de
détail.
Kevin Durant.
Mais en tout cas,
Mais.
oui, tu disais tout à l'heure que les Bucks étaient à l'image de leur meilleur joueur, donc de Giannis. Et bah forcément, ça me fait penser à cette petite vidéo qui était assez marrante, qu'avait posté le staff des réseaux sociaux des Bucks, où tu voyais Giannis au lancer franc à l'entraînement, en train de rigoler en disant, mais de toute façon, moi, j'ai fait des airballs au lancer franc, j'ai raté deux tirs de suite en faisant des airballs pour un match décisif, j'ai tout connu, mais vraiment en le disant, grand sourire avec PJ Tucker en train de se marrer pour dire moi de toute façon j'ai connu les plus hauts, les plus bas possibles, je les ai connus, et je suis en
Ouais.
NBA, je suis une superstar, moi je sors de la pauvreté extrême des petites rues d'Athènes. C'est quoi la pression? Tu as un petit peu l'impression que c'est comme ça qu'il vit ses finales et qu'il vit sa carrière de très haut niveau. Donc si ça déteint sur ses coéquipiers, on peut se dire que Milwaukee risque d'arriver assez détendu pour aller chercher, enfin, pour essayer d'aller chercher ce match 5 qui sera, quoi qu'il arrive, déterminant.
Ce point-là sur son état d'esprit, encore une fois, hein, c'est vraiment c'est original. Je trouve que c'est vraiment une superstar à part en NBA. S'il continue à avoir cet état d'esprit, en fait, tu te dis, mais ça change tellement d'autres mecs qui se mettent une pression monumentale, ce que je comprends aussi, hein, parce que j'imagine même pas la pression qu'ils doivent vivre, qu'ils doivent ressentir, tu vois. Mais c'est très, très fort de sa part. Et je comprends du coup pourquoi il a voulu rester à Milwaukee aussi, tu vois.
Ouais, et puis bah, l'avenir dira effectivement ce qu'il fera, mais oui, il y a plein de choses qui font que tu comprends déjà, parce que c'est l'équipe. Maintenant, on a tendance à l'oublier, mais quand Milwaukee a chopé Giannis Antetokounmpo à la draft, la plupart des gens se demandaient ce que Milwaukee était en train de faire, hein, parce il est arrivé extrêmement tard sur la carte, sur les radars des équipes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le temps de se renseigner suffisamment. Certains se demandaient si c'était pas une carotte ou était un joueur qui n'avait
Un
pas
mauvais
l'âge
camouflet.
qu'il était censé avoir, où il y avait tout un tas de mythes qui tournaient autour de ce mec-là. Finalement, Milwaukee, non seulement s'est pas trompé en le draftant, mais s'est pas trompé non plus en ayant la patience suffisante et en l'entourant de manière à l'aider à progresser année après année. C'est une belle histoire, hein. L'histoire de Giannis, elle est incroyable. Rien que de le voir avec son frère avant les matchs, moi, ça me fait un petit frisson à chaque fois, parce que je me dis, eux, ils doivent vraiment mesurer le chemin parcouru depuis leur enfance jusque-là. Donc, c'est pas pour tirer un. Enfin, pas tomber dans l'analyse un peu à la Disney, mais tu dis, de toute façon, ils ont déjà, au jeu de la vie, ils ont déjà gagné, eux, tu vois.
Ils ont
Qu'est-ce que
prévu
tu.
un film sur sa vie, je crois, à Disney, de toute façon.
Ouais.
Il me semble. Je crois qu'il y a un film. Non, mais je crois vraiment, c'est
Ouais.
pas une vanne. Oui, je crois qu'il y a une histoire. Bah ouais, clairement. Mais c'est. Alors, je suis pas là à dire. Je pense que les deux équipes méritent, mais c'est vrai que ça donnerait une petite saveur particulière quand même que Giannis puisse gagner avec les Bucks. Bon, après,
Ouais.
c'est. Bah, je sais pas. Les Suns aussi, hein, c'est une belle histoire pour Chris Paul et tout, mais il y a quand même le poids de ouais, il a amené cette franchise, le gars est sorti de nulle part et il a amené cette franchise au titre. Et juste, ça me fait penser à quelque chose, mais si le gars, il finit, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais c'est s'il finit champion MVP des finales avec ce comeback et qu'il a deux MVP et un Defensive Player of the Year à 26 ans.
Ouais.
Tu peux réfléchir où tu le mets dans la hiérarchie all-time, quand
Bonne chance. Ouais, et puis bonne chance aussi pour les haters à barbe qui disent que tout ce qu'il fait, c'est courir et sauter.
Un certain James.
Ça va être un peu dur de faire peser ce type d'argument dans la balance. En tout cas, moi, honnêtement, je m'éclate devant ces finales. Elles ont quand même forcément une saveur de nouveauté, hein, parce que ça fait 25 ans qu'on n'avait pas vu une équipe dans les finales dans lesquelles il n'y avait ni LeBron ni Stephen Curry. Alors, c'est pas pour, je ne leur souhaite pas de continuer à rater les finales, mais il y a forcément un côté de nouveauté qui est, moi, je trouve très plaisant, vraiment agréable. Et ça va être sympa de voir les ajustements. Là, je pense que la balle est plutôt dans le camp de Monty Williams pour le match 5, donc, qui se jouera dans la nuit de samedi à dimanche, et de voir ce que ça va donner. Mais ouais, il faut profiter de ces finales, à valent le coup.
Clairement, je suis d'accord avec toi.
Et ben voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle, hein, sans vouloir trop tomber dans la pub à gogo, mais c'est le numéro du MOOC River Spécial Chicago. Il est dispo sur Basket Session, 240 pages pour tout connaître sur le basket à Chicago. Et puis nous, on se donne rendez-vous très vite pour continuer d'analyser ces finales NBA et de parler de la ligue au sens large et du basket au sens large avec Antoine Pimel et Shai Mamou, à qui on passe le bonjour. En tout cas, on vous dit à très vite.
Yes.
Ciao!
Go.